André le Moine, une idylle normande. Le comte Henri de Messaline avait sa trentaine sonnée depuis 2 mois et 5 jours, le 15 avril 1860. Son père, ancien armateur du Havre, n'avait pas cru trop déroger en gagnant à grande vitesse, en toute probité du reste, l'argent fiévreux des affaires. De larges entreprises maritimes, confiées à d'intelligents capitaines et favorisées d'une heureuse étoile et d'un bon vent, l'avaient promptement enrichi. Il avait eu l'esprit de se retirer en veine de gain et d'acheter écu comptant plusieurs grosses fermes dans la haute et la basse Normandie. Son fils unique n'avait eu que la peine de naître, en vrai fils de roi, dans la plume de grèbe. Comme ceux à qui tout vient à souhait, il n'avait presque jamais rien désiré. Ayant reçu une très belle éducation, du reste au collège Henri IV, et fait son droit comme tout le monde, il se trouvait à sa majorité possesseur de 300 bonnes 1000 livres de rente en revenus de bienfonds, qui ne roulent pas comme des pièces d'or et ne s'envolent pas comme des billets. Dans ces conditions, on est à peu près libre de nos jours. Sans être un homme de génie, il était fort intelligent, d'aptitudes variées, et très heureusement pour un petit monde d'élite, accusait une préférence marquée pour les belles œuvres d'art, surtout les toiles de paysagistes. Il ne ressemblait en rien à quelques-uns de nos riches prud'hommes contemporains qui furettent sans pudeur les ateliers, achètent peu, et parfois gratifient l'artiste d'un sourire de commisération gouailleuse à faire lever les épaules des plus humbles. Lui admirait sérieusement et payait fort bien. On dit même que plus d'un peintre en détresse avait pu recevoir, sans rougir, quelques sérieux services de ses belles mains généreuses. Dans le monde des arts, on ne parlait de lui qu'avec la plus courtoise déférence. Savoir donner de bonne grâce est vraiment si rare qu'on s'étonne parfois du petit nombre des ingrats. L'homme physique était grand, vif, alerte, robuste, prompt à la réplique. Un jour de marché, un gars un peu aviné, s'étant permis quelques paroles outrecuidantes sur la fille d'un de ses fermiers, avait été vivement appréhendé au corps et fait à genoux amende honorable devant la pauvre fille rougissante et confuse. Dans son monde à lui, pour 2 ou 3 petites affaires d'honneur dont j'oublie l'incident, il s'était fort correctement comporté. De sorte que, si les paysannes le regardaient comme un bon et solide garçon, courageux et bienveillant, les dames du meilleur monde le considéraient comme un parfait gentilhomme. À son âge, il avait un peu navigué, un peu chevauché, un peu joué, un peu aimé, dans le hasard des jours, sans être jamais ni trop amusé, ni trop ennuyé. Presque sans s'en apercevoir, il avait tout doucement coulé dans la trentaine, en restant garçon. À ceux qui lui demandaient pourquoi il ne s'était pas encore marié, il répondait qu'il n'avait pas eu le temps d'y songer. À ce parfait gentleman, il manquait pourtant quelque chose, je ne sais quoi, un rien, une lueur dans la physionomie. Sa mère était morte en lui donnant la vie. Le sourire et le regard maternel n'avaient pas éclairé son berceau. Ce jour-là, le comte avait passé la matinée à tuer des lapins entre Ranonovine et Saint-Marcouf, dans un pays accidenté, dont les vieilles futaies dominent les hauteurs et regardent fort loin moutonner la grande nappe bleue de la mer, étalée magnifiquement depuis la pointe de la Hougue jusqu'aux grèves amoncelées de la Vire. « Une guerre aux lapins, se disait-il. Saint-Hubert me pardonne. Je suis honteux d'un massacre pareil. » Et tout n'est pas détruit. 2 ou 3 fois qu'on oublie en donne presque 1 000 l'an après. Quelle fécondité chez ces aimables rongeurs, dans l'insondable mystère de leur profond labyrinthe. On parle de la Vénus marine et la Vénus souterraine, qu'en dirait-on ? Me sent quelques raideurs aux jarrets. Et le chasseur s'allongea, parallèle à son arme, dans l'ombre d'un vieux chêne, en aspirant à petites bouffées un long havane craquant sec, dont il appréciait la valeur, tandis qu'un rossignol, tout frais arrivé de la veille, inaugurait à plein gosier les premières aubades du printemps. Accoudé nonchalamment sur un talus de mousse, le comte se prit d'abord à rêver, et le regard perdu tout au fond de ces longues avenues, où le ciel n'est pas grand de trois zones, comme aux yeux de Virgile, mais apparaît en demi-lune bleue, si petite, si étroite et si loin, qu'on dirait à peine une trouée d'écureuil. Puis il ramena graduellement ses regards dans le voisinage, au bord d'un chemin creux, où le jour tamisé par une haute rangée de hêtres répandait magiquement sa lumière bleuâtre. Là, il aperçut quelque chose d'insolite, blanc comme neige, hémisphérique comme un champignon gigantesque. « Tiens !» s'exclama-t-il, « un parasol de paysagiste. Le parasol et la boîte à couleurs, et la pique et le sac de voyage. L'équipement complet de l'heureux bohème qui chemine à son gré pour faire ses études en plein air, et replier bagages au bon plaisir de sa grâce nomade. J'admire ce fervent adorateur de la nature, si carrément établi dans mon parc réservé. J'aimerais à savoir quelle route il a dû prendre en dehors de ma grille et des murs de clôture qui n'ont pas une seule brèche. Je ne connais que la taupe et l'hirondelle pour se frayer sans façon un chemin si commode. Après tout, ce rêveur peu soucieux des gardes champêtres m'a tout l'air d'un juif errant qui serait à la mode. Soyons hospitaliers, abordons poliment notre homme. » Et sans plus attendre, le comte descendit à la rencontre de l'inconnu. « Monsieur, mille pardons, mais je n'ai pas l'honneur de me connaître. Oh, de profil, c'est possible, mais de face. » Oui, l'œil et la voix, mais la barbe me désoriente et je bafouillais mes souvenirs. Allons, un effort de mémoire. Un portrait de jeune peintre en habit somptueux comme Bruegel de velours. Cheveux blonds à torrents. Dans ta galerie, à droite. Georges, parbleu. Et les deux amis s'embrassèrent très cordialement. Puis, comme d'anciens camarades, revinrent s'asseoir côte à côte sur le talus de mousse, tandis que, surpris de leur indifférence à son égard, le rossignol redoublait de vitesse et d'intensité dans l'émission de ses vocalises. « Vraiment, dit Henri, je ne t'aurais pas reconnu avec ce masque bronzé et la barbe en éventail, comme celle du feu roi mon patron. » Non, les soleils étrangers, les fatigues, les années. Sais-tu quand, voilà, 7 ou 8 ? Oh, 8 en réfléchissant, et je l'espère, tu nous reviens pour longtemps. Qui sait, à une époque d'ordre composite aussi bizarre que la nôtre, les histoires les plus authentiques ressemblent à des aventures de romans, et je ne sais vraiment pas ce que l'avenir me réserve. « Et tu reviens de fort loin ?»« D'Égypte, d'Arabie, de la côte orientale d'Afrique, ou entre parenthèses, j'ai failli laisser mes eaux de paysagiste avant d'avoir fini mon œuvre, ce qui n'est pas absolument égayé, et ce qui t'explique un peu mon absence prolongée. »« Et depuis quand débarqué ?»« D'avant-hier seulement, à Granville, après avoir tourné l'Espagne par Gibraltar. »« Ah, mon ami, le croirais-tu ?» À la fin de cette longue traversée, quand je n'ai plus senti sous mon pied le bercement du navire, quand j'ai pris terre en flairant les herbes, j'ai voulu d'abord m'enfuir comme un ruminant dans ces bonnes et grasses vallées normandes, ne pouvant détacher mes regards des longs prés qui verdoient et verdoieraient jusqu'au bout du monde si la mer ne les arrêtait pas. J'ai laissé filer toute seule mes mâles sur Paris, et je bats la campagne à travers les herbages, ivre de verdure et de joie dans ce magnifique pays occidental qui pour la première fois se révèle dans toute sa gloire à mes yeux fatigués. Et comme je porte toujours avec moi quelques bouts de toile et ma boîte à couleurs, j'ai pas pu me défendre de planter ici ma pique et mon parasol, et je commençais mon esquisse, dans la fièvre du premier mouvement, quand tu m'as dérangé. Pardon, cher ami, surpris et embarrassé, comme un vieux camarade, aussi étonné sans doute de me voir dans cet antique futaie que moi de t'y rencontrer. Après tout, j'y pense, peut-être suis-je ici chez toi, car tu possèdes tant de châteaux qui ne sont pas en Espagne. Oui, quelques-uns, tu es ici parfaitement chez toi, tant qu'il te plaira d'y séjourner, et même si tôt ou tard tu veux y faire un nid, mon cher oiseau de passage. À la bonne heure, les années ne t'ont pas amoindri, toujours même jeunesse de cœur. Parbleu, avec des artistes tels que toi. Parti obscur, tu reviens célèbre. Sais-tu que depuis 3 ou 4 ans, on ne parle que de toi dans Paris? On couvre d'or les plus petites toiles de Georges Fontan. Tes derniers envois au salon rayonnent de lumière. C'est de l'Orient comme on n'en voyait plus. Et tu gagnes de 80 à 100 000 francs chaque année, et la gloire et la fortune t'arrivent de compagnie. Mais l'Orient en a assez bon rapport pour les paysagistes. Quelques touffes de palmiers doux, un passage d'autruche à la ligne d'horizon, un vol de flamants roses, 4 ou 5 étoiles miroitant sur un bout de grève mouillé, il n'en faut pas davantage. Mais je n'ai pas oublié le bon génie auquel je dois une si grande part de mon succès. N'est-ce pas toi qui m'as tendu la main et généreusement ouvert ta bourse toute grande dans un jour de détresse? Tu m'as donné spontanément et sans arrière-pensée 30 000 francs que tu pouvais parfaitement croire à fond perdu, quand je n'étais encore qu'un mince bohème, perdant courage, et bien près de sombrer dans le grand inconnu. Oh, 30 000 francs, mais que depuis tu m'as intégralement remboursé. Oh, je n'en reste pas moins ton éternel obligé, comme un frère de cœur et d'art. Aussi je bénis le hasard providentiel qui me jette aujourd'hui sur ta route pour t'exprimer ma vive gratitude. Et si jamais à une heure quelconque de ma vie, j'en suis convaincu, cher et illustre maître, je m'en veux pourtant de t'avoir caché quelque chose au jour néfaste où tu m'as secouru. Tu n'as jamais connu le fond de cette vieille histoire, le plus douloureux et le plus cher secret de ma jeunesse. Mais tu vas le connaître. Bon, oui, j'avais en effet toujours pressenti quelques mystérieuses aventures dans ton passé. Et puisque tu me crois digne de la confidence, j'écoute. Tu sais qu'en faisant mes premières études de paysagiste, je courais un peu les grèves bretonnes et normandes, Houlgate, Cancale, la Romanche, la Chapelle en Saint-Briac, etc. Et à 21 ans, robuste et bon nageur, je m'aventurais assez loin en mer, à l'aise dans l'eau comme la mouette dans l'air, et prenant de préférence mon bain de sel et de lumière aux dernières lueurs du soleil couchant. Un soir, c'était à la chapelle en Saint-Briac, je raconte sans phrase au courant des souvenirs. Je prenais mon bain, comme d'habitude, en toute nonchalance. Il y avait ce jour-là beaucoup de promeneurs sur la grève, la dune et les roches. Au coucher du soleil, je crus m'apercevoir d'un mouvement inusité dans la foule des promeneurs, courant par bandes affolées sur le bord des plus hautes roches, avec de grands gestes que je distinguais fort bien, et sans doute de grands cris que la distance et le bruit des lames m'empêchaient d'entendre. Je compris qu'il y avait un baigneur en danger. D'un rapide coup d'œil, j'embrassai l'horizon et me dirigeai en toute hâte vers le point de la mer, où semblaient converger les gestes de la foule. À quelques brasses de moi, une tête blonde roulait échevelée dans l'écume des lames. Je fus bientôt sur elle et pus saisir à plein corps une jeune fille presque évanouie. Elle ouvrit démesurément les yeux, me regarda fixement et riva ses deux mains à mon cou dans une étreinte désespérée. Mais presque aussitôt les mains se détendirent et je n'eus qu'une masse inerte à maintenir à flot tandis que je nageais d'un bras. La grève n'était pas loin, mais la mer se retirait Et tu sais que, dans cette conche étroite creusée en entonnoir, le flot de jusant, très rapide et presque irrésistible. J'eus peine à vaincre la barre d'écume et j'étais à bout de force quand je heurtais la grève. Pris de vertige, j'eus comme un éblouissement funèbre avec un grand frisson d'anéantissement. Mes yeux se fermèrent. Voilà tout dans mes souvenirs. Et tous deux furent sauvés, interrompit vivement le comte. Oui, mais attends la fin. Je n'ouvris les yeux que 12 heures après, dans mon lit d'auberge. Au chevet, un grave personnage inconnu semblait épier mon réveil. Elle est sauvée, dis-je d'instinct. Oui, me répondit-il en me prenant les mains avec effusion. Ma fille, grâce à vous. Puis après quelques instants de silence. Quand on a fait preuve d'un tel courage, on doit être homme d'honneur. Je vous en prie, ne cherchez pas à me connaître. Vous me voyez heureux et navré, victime d'un grand désastre, obligé de cacher mon nom, même de quitter la France. Mais certainement nous nous reverrons dans un avenir très prochain. Aujourd'hui, pardonnez-moi. Et me serrant de nouveau les mains, le mystérieux personnage disparut en hâte, comme si quelque inexorable fatalité lui poussait les talons. Pour ma part, j'eus un mois de fièvre, et quand je pus me rendre à Saint-Malo, le père et la fille avaient quitté l'hôtel depuis 20 jours pour une destination inconnue. Où était-il? Le sieur de tant de navires s'efface à chaque heure sur la mer. On le supposait d'une grande famille étrangère, de l'Amérique espagnole, je crois. À une époque aussi troublée que la nôtre, était-ce une affaire politique ou quelque sinistre financier qui les expatriait? Je ne l'ai jamais su. Et cette jeune fille, continua le comte, ému et surpris, avant l'heure du péril, tu ne l'avais pas encore vue? Bon, je l'avais rencontrée 2 fois sur la grève. J'avais admiré sa bonne grâce de petite fée grandissante, elle avait 15 ans peut-être. Sa luxuriante chevelure m'avait ébloui et j'étais resté sous le charme de ses yeux songeurs, révélant tout un monde de pensées dans l'aurore de la femme. « Comme tu en parles, quel afflux d'éloquence !» dit Henri avec le plus bienveillant des sourires. « Non, je raconte simplement, » reprit Georges. « Je fus comme un fou durant toute la saison chaude. » Aux premières fraîcheurs de septembre, le cerveau se calma. Ce fut alors que je me réfugiai dans l'art comme un désespéré, et qu'un matin d'octobre, oh, je m'en souviens si tu l'as oublié, je vins à toi en te disant « Henri, comme colorige quelque chose en moi, je voudrais voir l'Orient, qu'en penses-tu ? Peut-être 10 000 francs suffiraient. » Et pour toute réponse, il m'en donna 30, avec le geste affable et le sourire princier de Laurent le Magnifique. Le dieu des beaux-arts m'en a su gré, tes succès me récompensent. Mais pour en revenir une fois encore à cette jeune fille, tu ne l'as jamais revue? Jamais. Et si, tôt ou tard, tu la rencontrais? Oh, je donnerais tous mes rêves de gloire et mes plus saintes joies d'artiste pour une heure d'amour en toute franchise de cœur. Mais descendons de ces nuages platoniques et parlons un peu de toi, cher ami. On prend des années sous les hautes futaies de son parc, aussi bien que sur les planches d'un navire. À ton tour, raconte-moi tes aventures. Es-tu resté garçon ou n'aurais-tu pas de beaux enfants à me faire embrasser? Non, pas encore. Mon genre de vie placide et d'apparence heureuse ne s'est guère modifié depuis ton départ. Bain de mer, ville thermale, champs de course, bals et théâtres, toujours la même chose et toujours à peu près les mêmes figures. Cette éternelle existence au beau fixe, implacable comme le bleu indigo du ciel napolitain chanté par des guitaristes, Comment s'est homme donné sur les nerfs? Quand un incident fort inattendu s'est présenté dans ma vie. Oh, mais quelques mots suffiront, puisque tu veux bien m'écouter. Dans l'après-midi d'une chaude journée fleurie, où il y avait quelques nuées d'orage dans l'air et les plantes du jardin embaumaient, je répétais au piano une fantaisie de Chopin, ému comme toujours de cette musique étrange, nerveuse et saccadée, qui vous emporte dans son tourbillon de fièvre avec des notes poignantes comme un sanglot dans un rêve, quand j'aperçus derrière moi, dans la glace et comme encadré dans le chambranle de la porte, une jeune femme blonde, vêtue de noir, immobile comme une statue, et semblant écouter de tout son être dans le religieux silence du recueillement. Je voulus m'interrompre, mais d'un geste souverain et d'un regard où il y avait autant de prière que d'autorité, elle m'obligea de continuer mon thème. Et seulement lorsque les dernières vibrations s'éteignirent, elle vint à moi comme les apparitions en longue robe traînante que Jean de Fiesole faisait glisser dans les fresques de ses paradis. Sa grande chevelure lui ruisselait aux épaules. Elle n'était pas d'un blond cendré, ni blond d'ambre, ni blond de lin, mais d'un blond tonique, presque châtain, à reflets d'or. Ici, la tension de Georges redoubla. « Très bien, monsieur le comte, me dit-elle, vous comprenez la musique des maîtres. » Je m'empressai de faire asseoir ma belle visiteuse et lui demandai ce qui me valait l'honneur de sa venue. « Un vulgaire motif d'intérêt, me répondit-elle d'une voix toute musicale. Nous tombons des hauteurs de l'art sur la réalité plate. » Mais avant de vous exposer l'objet de ma visite, permettez-moi de vous présenter l'indiscrète personne qui a pris la liberté de vous déranger. Je m'inclinai respectueusement. Vous ne vous en doutiez peut-être pas, continua-t-elle, mais je suis de vos parentes. Je me nomme Marie Alvarez. Vous souvient-il ce nom-là dans votre famille? En effet, répondis-je après réflexion. Du côté maternel, parenté latérale, un peu lointaine, mais réelle. Ma mère étant cousine de la vôtre, reprit-elle d'une voix réservée, je me trouve donc un peu votre nièce. Nous avons très longtemps vécu à l'étranger. Moi-même, je suis né en mer, au bercement du navire, dans un voyage au long cours de Liverpool à Valparaiso. Ma mère était trop souffrante pour me donner son lait, et comme il y avait une chèvre à bord, elle fut ma première nourrice. Ce qui explique, m'a-t-on dit, mon caractère fantasque. Très bizarre, en effet, interrompit Georges d'un ton de surprise enjoué, absolument comme l'ancien maître des dieux, dont je comprends aujourd'hui l'humeur capricante. Tu m'y fais songer pour la première fois, mais pardon, continue. Donc j'abrège mon récit pour ne pas t'ennuyer. Elle me raconta que son père, un Espagnol de race, s'était réfugié à la frontière de France en temps de trouble. On se battra toujours au-delà des Pyrénées. Qu'il avait connu et épousé sa mère à Argelès, et qu'espérant refaire sa fortune, il avait navigué dans l'Inde et les deux Amériques. Qu'en fin de compte, comme un lièvre qui fait sa randonnée, il était revenu au gîte pour être successivement maître de fort dans l'Ariège, raffineur de sucre dans le Pas-de-Calais, à Corbeum, je crois, et que tout récemment il était venu s'échouer dans une filature à Fleury-sur-Andelle, où il se trouvait traqué par une meute de créanciers avec un passif de 200 000 francs, et que dans cette crise désastreuse, elle craignait un coup de tête que son père avait quelque chose d'égaré dans les yeux, et qu'elle avait pris sur elle de venir à moi de son propre mouvement. Elle me parut très digne et très émue, et me dit en achevant, « Monsieur le comte, si ma démarche vous paraît étrange, oubliez-la et pardonnez-moi. Mais si elle vous semble toute naturelle, faites simplement ce que vous dira votre cœur. » Je la rassurai en prenant congé d'elle, et il résulta de mes informations que le noble Castillan, habile joueur de guitare et grand rouleur de cigarettes, n'était pas plus fait pour l'industrie qu'un poète lyrique pour la traite des Noirs, qu'il avait constamment périclité dans les deux mondes, et en résumé, comme la mauvaise chance entrait au moins pour les trois quarts dans son jeu, je payais les créanciers. Et de deux, possédez-vous bon de famille, s'écria Georges spontanément, dans un sincère élan d'enthousiasme. Oui, reprit Henri d'un ton modeste, mais grâce à moi, l'honnête homme, depuis, a pu tranquillement s'éteindre dans son lit, et il m'a légué son trésor de fille. Destiné sans doute à devenir ton joyau de femme? Comme tu le dis, oui. Elle me semblait un peu brusque et bizarre d'abord, mais je me suis fait à son caractère. Elle est vive, intelligente, enjouée, spirituelle, très bonne musicienne, et je dois te dire qu'elle comprend fort bien tes paysages, qu'elle admire à tous les salons. C'est une de tes enthousiastes, et récemment elle a su trouver bec et ongle pour te défendre contre un groupe de prétendus réalistes qui voient mal et qui peignent lourd, gris, terne, sec et dur, en croyant copier la nature, qui se moque éternellement d'eux, sachant qu'elle n'est pas comprise. Marie Alvarez, cher ami, connaît toutes tes œuvres et t'apprécie. Crois-le bien, ta rare valeur. Mais je me trouve naïf. Voilà une grande heure que je dépense à te parler d'elle quand j'ai sur moi son portrait. Une miniature ovale, tout récemment peinte et assez bienvenue sur une feuille d'ivoire. En attendant que je te présente à l'original, tiens, regarde. Qu'en dis-tu ? Ici, Georges fit un haut le corps à en perdre l'équilibre s'il n'avait eu si bonne assiette sur son trône de mousse. La jeune fille qu'il avait sauvée, devenue femme, lui souriait comme la Joconde dans ce petit cadre ovale à fil d'or. Oh, sa voix lui resta dans la gorge. Mais comme pour sa part le comte attachait les yeux fort complaisants sur la gracieuse et vivante image, le trouble de Georges lui échappa sans doute. Et quand il interrogea du regard le paysagiste, « Oh, très belle !» répondit Georges, « et tu l'aimes ?»« Je l'aime, oui et non, pas précisément. N'en suis pas fou, ce n'est pas du délire, mais entrer dans ma vie par surprise, elle y est restée comme un enchantement. Et je crois que si je venais à la perdre, je ne m'en consolerais pas. » « Alors, tu l'aimes profondément, » dit Georges d'une voix lente et toute songeuse. Et un combat terrible se passa dans le cœur du pauvre artiste, qui se trouvait entre l'homme dévoué et l'ami des grands jours, qu'il avait arraché lui-même de l'abîme, et la femme de ses rêves qui lui souriait dans tout le rayonnement de sa beauté. Il allait la revoir sans doute, dans une heure peut-être. Il comprit que s'il restait, il n'aurait plus la force de partir, et il fallait se décider vite. La lutte fut héroïque. Il triompha, des perles de sueur froide lui couronnaient les tempes. « Allons, se dit-il, soyons hommes. » Et il chercha quel honnête prétexte il pourrait bien inventer pour que son brusque départ eût une apparence de raison. Il se creusa la tête et crut avoir enfin trouvé. Pour mieux jouer sa grave comédie, il se frappa le front comme au choc d'une idée subite, descendit vivement de son tertre sans mot dire et, d'un air fort préoccupé, s'étira, s'ébroua, étouffa même un petit bâillement, cligna des yeux du côté de sa pique et de son parasol, puis se plantant droit devant le comte. « Oh, mais tous mes regrets, cher ami, mais avec toi j'oublie les heures. Non pas que je veuille en égoïste achever mon esquisse aujourd'hui, mais le soleil baisse, et pour être en gare avant la nuit, je n'ai pas trop de mes deux jambes. »« Comment en gare tes deux jambes ?» répliqua le comte surpris, et faisant la moue plaisante. « Tu ne veux pas me donner les traînes de ton retour ?»« Puisque tu as fait tant que de venir jusqu'à mes vieux arbres, reste au moins une semaine ou deux, que j'ai le temps de te reconnaître. »« Qui t'en empêche et qui te presse ? Tu n'as pas, je suppose, quelques diablotins à tes trousses, comme aux malades du Moyen-Âge. Alors, c'est décidé, tu restes. Non, impossible, répondit Georges avec le plus grand sérieux. Je m'aperçois un peu tard, comme toujours, que je suis un pauvre étourdi, m'amusant aux fleurs de la route et oubliant le principal comme le chaperon rouge. Tiens, regarde, départ de Hambourg le 18 à 6 heures du matin. Nous sommes au 15. À peine ai-je le temps, toute hâte. Et à l'appui de son dire, le paysagiste exhibait une carte imprimée des vapeurs réguliers, faisant par mer le service de Hambourg à Bergen, carte qu'il avait prise à tout hasard en passant à Granville. Il ajouta, oh, « Je serai seul, peu m'apporterai l'époque du voyage, mais là-bas doit m'attendre un camarade d'atelier de la rue Carnot, un ami fervent, qui durant ma longue absence de Paris s'est religieusement consacré à mes succès d'artiste en exposant mes toiles à tous les salons. C'est grâce à lui que mes envois de chaque année n'ont pas été interrompus. Puis-je décemment lui fausser compagnie et laisser se morfondre au quai d'embarquement un si brave camarade, après avoir engagé ma parole? Non, non, nous devons faire ensemble notre tour de Norvège. Et des pays du soleil, je remonte au pays des neiges. Après avoir peint des palmiers et des cèdres, on fera des bouleaux et des pins. N'est-ce pas original comme loi de contraste ? Et sans être trop indiscret, poursuivit le comte opiniâtre, serais-je le nom du malencontreux ami qui t'enlève ? Julien Boer, le peintre de marine dont tu possèdes une écluse et un bassin de carénage. Et entraîné lui-même par la conviction de son courageux mensonge, Georges fut allé en Norvège, comme il le disait, pour être jusqu'au bout dans la logique de son rôle. Henri se récria pourtant. Georges répliqua et plaida si chaudement sa cause qu'elle était bien près d'être gagnée. Mais quelque chose d'imprévu dérangea toutes ces combinaisons. La fatalité s'en mêla comme toujours. Cette fois, elle tenait en main une petite ombrelle verte au fond de la grande avenue. Le comte l'aperçut le premier et le cœur allégé s'écria tout joyeux. « Ah, ma foi, tant pis pour toi. Voici la châtelaine qui s'avance de l'autre côté. Oh, tu lui expliqueras tes raisons comme tu pourras. Essaye de la convaincre. Pour moi, je m'efface absolument. »